va traiter du sujet des intellectuels confrontés à la guerre de 39-45. On sait déjà, et avec dans le cadre du centenaire de 14-18, on a aussi vu comment les intellectuels français se comportaient par rapport à la guerre et comment ils ont pu soit défendre une démarche hyper patriotique, au contraire, une démarche dans un cadre purement minoritaire, pacifique. Eh bien, est-ce que ces intellectuels français, face à 39-45, vont se comporter comme des acteurs majeurs au service de la cause pacifiste, humaniste, ou au contraire, au service d'un régime pro-nazi, c'est-à-dire le régime de Vichy et le pouvoir de la collaboration qui va emporter une grande partie de nos intellectuels. Donc nous allons travailler sur ce thème, donc très vite parler bien sûr de la réalité du terrain historique, c'est-à-dire la défaite de Français et l'occupation allemande, le régime de Vichy, le régime de la collaboration officielle, le fascisme français qui se construit et s'élabore à partir du régime de Vichy, et puis bien sûr parler de la violence de l'appareil nazi, du rôle de terreur généré par l'occupant allemand à travers tout le territoire français. Donc comment ces intellectuels, face à ces faits historiques terribles, réagissent? Est-ce qu'ils défendent un fascisme clairement assumé et responsable? Est-ce qu'ils se réfugient dans l'attentisme ou l'immobilisme? Est-ce qu'ils se tournent vers une sorte d'opportunisme économique? Je vais pouvoir publier mes œuvres grâce à la présence allemande et au régime de Vichy. Voilà de grandes interrogations. Et est-ce que, bien sûr, ce qui vous intéresse davantage, est-ce qu'on aura des intellectuels qui vont combattre l'occupant allemand très tôt ou d'une manière beaucoup plus progressive? C'est là toute la question que nous allons poser à partir de cette conférence. Donc, quel choix possible, quel positionnement, comme l'a dit votre président, quelle réponse, quel engagement ces intellectuels vont-ils défendre au cours de cette période de 39 à 45? Pour aborder cette question, on travaillera sur quatre étapes. La contre-guerre et la défaite française, vue par les intellectuels, donc 39-40, bien sûr, l'occupation allemande et la vie intellectuelle, comment les Allemands vont organiser ou sanctionner la vie intellectuelle française, de 40 à 42. À partir de 42, on verra comment le régime de Vichy est bien sûr structuré, consolidé, mais aussi que naît un mouvement de résistance à partir de 42-43. Et puis, dans une dernière partie, eh bien, on parlera de la résistance intellectuelle, une résistance intellectuelle active, affirmée, et dans le cadre de la fin du régime de Vichy, et bien sûr de la disparition de ce régime, pour le moins infâme, qui a été le régime de la collaboration. Donc, dans un premier terme, la contre-guerre et la défaite française. Quels sont les éléments historiques qui vont nous conduire à voir ces intellectuels réagir? Donc, tout d'abord, l'année 39, c'est insister sur les décrets d'Alliés
du 10 septembre 39, qui interne tous les réfugiés politiques et les étrangers et autres indésirables. Et là, on sait que Daladier est tout à fait efficace avec la police française. On va interner des réfugiés politiques dans plusieurs camps, Rives-Alt, Baume-la-Rolande, Pithiviers, etc., Compiègne, Gurs et bien d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est retenir le cas du camp de Mille, près d'Aix-en-Provence, qui voit 12 000 Allemands internés, 5 000 Autrichiens, sous l'autorité de Daladier. Tout citoyen allemand doit se faire enregistrer par la police, il est assigné à résidence ou il est interné dans les camps. Donc, vous le voyez, on est dans une situation fort inquiétante, et au-delà de cette politique anti-intellectuelle ou anti-allemand défendue par Daladier, on sait aussi que les réfugiés espagnols liés à la guerre de 36-39, tous ces syndicalistes, ces communistes, ces militants antifranquistes sont réfugiés en France et seront bien sûr internés eux aussi dans les camps de Gurs, du Vernet, de l'Oriol, etc. et bien d'autres. Donc vous voyez que la chasse aux progressistes, aux humanistes, aux anti-nazis est sanctionnée et quand même organisée d'une manière très claire par Daladier et conduit à voir nos amis allemands, autrichiens ou espagnols enfermés dans des camps. Donc, on a les exemples de Marx Ernst, de Bellmer, de Kössler, d'Heinrich Mann, qui seront enfermés au camp du Vernet, Gustav Regler aussi. Et puis, au-delà de ce décret de septembre 39, en mai 39, eh bien, de nouvelles vagues d'arrestations frappent ces intellectuels. Et on aura quand même des réactions de Poulenc qui, par ses relations, va permettre de libérer Marx Ernst. D'autres vont s'évader de ces camps, d'autres vont se suicider, comme Karl Einstein ou Walter Hasenclever ou Mützenberg, hein, qui ne supporteront pas cette manière de traiter ainsi le sort des antinazis par le gouvernement Daladier. Daladier poursuit sa démarche d'une manière assez déterminée. Il dissout bien sûr le Parti communiste français suite à la signature du pacte germano-soviétique de septembre 1939. Il va aussi sanctionner tout pacifiste qui s'exprime. Giono et sa pétition pour la paix tout de suite est immédiatement sanctionnée, arrêtée. Benjamin Perret, pour ses propos défaitistes, est lui aussi arrêté. Donc, ce qui est assez surprenant, c'est que Daladier ne s'en prend absolument pas aux pro-fascistes et il va même se montrer très conciliant vis-à-vis d'intellectuels fascistes français comme Giraudoux, qui est ministre de l'Information et qui, dans son libelle Plein Pouvoir, exprime une violence raciste insupportable et défend des positions xénophobes au cours de ce petit fascicule, mais aussi de conférences qu'il organise avec la bénédiction de Daladier. Les étrangers, les juifs, les Allemands doivent être éliminés et Giraudoux affirme son accord avec la politique raciale et bien sûr antisémite d'Hitler. Donc voilà des situations particulières hein, qui nous montrent dans quel contexte le gouvernement évolue. Et puis, bien sûr, sur le plan militaire, c'est la drôle de guerre. Hein. Et cette drôle de guerre, c'est l'inaction, c'est l'immobilisme. On se réfugie derrière la ligne Maginot, on attend. Ce sont les thèses, bien sûr, défensives de Pétain, de Weygand qui ici s'affirment. Et dans cet immobilisme assez surprenant, étonnant, puisque cela permet aux Allemands de pouvoir progresser du côté de la Pologne, puis du Danemark, puis de la Norvège et de la Suède, eh bien, cette situation est assez insupportable, mais nos amis artistes, chanteurs et autres vont distraire nos soldats qui sont bloqués sur la ligne Maginot. Sacha Guitry, lui, à Paris, organise des bals de charité pour les services d'ambulance. Edith Piaf fait des concerts aux armées. Maurice Chevalier, Joséphine Baker, hein, vous les connaissez, affirment par des chansons leur attachement à la mobilisation française face à l'Allemagne. Vous connaissez Maurice Chevalier, on ira pendre notre ligne sur la ligne Siegfried, hein, un chevalier très optimiste, hein, c'est sûr. Le fait aussi que l'unité française doit se construire, donc cela fait d'excellents Français hein, dans sa chanson. Les banquiers du banquier, au balayeur, au boulanger, à l'extrême droite, à l'Action française et aux catholiques, tout ceci constitue un bloc de résistance militaire tout à fait honorable pour Maurice Chevalier. Les intellectuels eux-mêmes sont directement concernés, sont mobilisés, sont mobilisables. Hein. Ils portent l'uniforme, Louis Aragon, Éluard, Brasillard, Rebattet, Michel Déon, Raymond Aron, etc. Et bien d'autres sont dans les tranchées ou dans leur régiment. André Malraux, lui, est simple soldat dans les chars. On sait que ce brave Malraux deviendra tout d'un coup, au bout de 4 ans, colonel. Hein. C'est assez surprenant de simple soldat passer au statut de colonel. Bref, mais bon, c'est une autre question. Alors, oui... voilà donc la situation de la drôle de guerre et puis le déclenchement bien sûr de l'offensive allemande, vous la connaissez, mai 40. Et dans cette analyse, il faut quand même rappeler que la signature du pacte germano-soviétique avec ses clauses secrètes a permis le partage de la Pologne. Du côté russe, bien sûr, c'est la partie Est qui sera confiée à Staline et la partie Ouest, bien sûr, aux Allemands et aux nazis. Donc tout ceci voit bien sûr la Pologne fondre sous l'offensive allemande. Hein, en 3 semaines, la Pologne est rayée de la carte. Et l'URSS, de son côté, occupe la partie Est et puis va se permettre d'aller attaquer la Finlande, considérant que cette Finlande est un territoire facile à contrôler. Et donc le 30 novembre, eh bien, la guerre russo-finlandaise permet à Staline et à son équipe d'avancer ses des pions et d'être d'un cynisme incroyable, et dans un intérêt purement impérialiste de conquérir une grande partie de la Finlande, notamment l'isthme de Karélie. Donc voilà, l'effet Daladier est renversé entre-temps grâce à Laval, et c'est Paul Reynaud qui gère l'avenir, bien sûr, de la France. Et Reynaud quand même déclare qu'il faut se montrer un peu plus virulent et déclarer que l'ennemi potentiel, c'est bien l'Allemagne et Hitler, et c'est pas du tout l'URSS et Staline. Et Reynaud lancera cette opération de Narvik, hein, couper la route du fer, qui est un échec, opération franco-anglaise, et qui voit nos troupes françaises revenir, bien sûr, sans aucune satisfaction tactique. L'offensive allemande de mai 40, vous la connaissez tous, le piège de Dunkerque, la percée de Sedan, hein, ceci vous est connu, et le piège de Dunkerque conduit à l'opération Dynamo, essayer de sauver une majorité de soldats anglais et une majorité de soldats français, dont 140 000 d'ailleurs seront sauvés par les opérations de soutien de la part du Royaume-Uni. Entre-temps, l'Italie déclare la guerre à la France le 10 juin, donc tout va très bien pour notre État français. Le désordre général, la débâcle est totale, il n'y a pas comme en 14 une retraite organisée, structurée, c'est les troupes qui sont abandonnées par leur chef, et c'est la débâcle générale, 10 millions de réfugiés qui occupent les routes et les régions du nord et du centre de la France. Dans cette situation, vous avez quelques intellectuels qui parlent de cette défaite, hein. Bien sûr, Marc Bloch, l'étrange défaite, Némirovski, suite française ou Saint-Exupéry, avec pilote de guerre qui explique comment la situation était invraisemblablement mal pensée par nos tacticiens et autres gamelins que vous connaissez bien. Darius Milhaud, Tristan Bernard, Colette Bergson, eux, peuvent fuir sans problème dans le sud, à Carcassonne, se réfugient à Carcassonne avec Paulhan, avec Gallimard. Le gouvernement quitte Paris pour Orléans le 10 juin, et puis, bien sûr, les prisonniers français sont d'un nombre inconsidéré, hein, jusqu'à 2 millions de prisonniers, et dans ces prisonniers, les intellectuels sont aussi sanctionnés. Sartre, Messiaen, Desnos, Anouilh, Malraux, Brasillard, Mitterrand sont eux-mêmes faits prisonniers. Et puis, dans cette analyse, certains réussissent à s'évader, et d'autres, par relation avec Otto Abetz, sont ainsi libérés, comme Sartre et comme Messiaen. Donc, toujours sur le plan militaire, Paris est déclaré ville ouverte le 14 juin. D'autres réfugiés sont tranquillement installés du côté de Biarritz. Suzanne Flon, Elvire Popesco, Mistinguette, Matisse, lui, Chagall et Bonnard sont en Provence. Donc, tout va bien pour eux, alors que la débâcle marque, bien sûr, nos réfugiés français. Le 16 juin, le gouvernement s'installe à Bordeaux. Expédition de Pierre Mendès France et d'autres pour tenter, avec le paquebot Massilia, de retrouver l'Afrique du Nord et essayer d'organiser la résistance, mais tout ceci est sanctionné et ils sont obligés de revenir immédiatement sur Bordeaux. Pétain, bien sûr, est remplacé par Weygand et l'armistice est signé le 22 juin et Pétain, avec sa voix chevrotante de brave général, eh bien de maréchal, plus exactement, marqué par le prestige de Verdun, entre guillemets, on y reviendra, eh bien ce brave Pétain signe l'armistice le 22 juin, il a 88 ans, il est le grand stratège de la ligne Maginot, il lance un discours plein d'émotions, je fais don à la France de ma personne, le cœur serré, je signe l'armistice, etc. Donc c'est un immense soupir de soulagement pour la France, bien sûr, pour l'opinion française, peut-être pour les autorités françaises, mais rappelons quand même que le 18 juin, eh bien, il y a eu un appel, c'est celui du général de Gaulle, et qui appelle lui au contraire à la résistance et non pas à la démission, comme le voulait Pétain. Donc voilà une situation donc particulière, et dans ce cadre-là, il faut alors montrer que l'armistice conduit à des sanctions terribles pour la France, hein, 400 millions de francs or par jour, pillage économique organisé par les Allemands, l'armée française réduite à 100 000 hommes, et donc situation terrible pour les Français. Qui se perpétue aussi par une sorte de cynisme de la part des Anglais et Churchill qui décide le bombardement de la flotte stationnée à Merselkébir et qui fait 1300 morts du côté français. Donc, résultat de tout cela, après la signature de l'armistice, c'est bien sûr le plus, préoccupant, c'est le 10 juillet 40, l'Assemblée nationale, réfugiée, bien sûr, à Vichy, vote les pleins pouvoirs à notre ami Pétain, et notre grand ami Pétain, eh bien, ajourne la République et les principes de République et de démocratie représentative. Donc, vous savez qu'il y a 569 députés pour, 80 contre, des socialistes, des radicaux aussi, et même des éléments de droite, d'une droite traditionnelle, et 17 abstentions. Donc cette France qui se constitue sous l'autorité absolue de Pétain, c'est une France de la tradition, travail, famille, patrie, c'est se tourner vers la famille, vers le catholicisme le plus traditionnel qui soit, vers le paysanat, la ruralité. C'est aussi une France pour nos stratèges qui tournent autour de Pétain, se débarrasser des juifs, des francs-maçons, des communistes. Ouf, on est satisfait et heureux de voir ainsi que cette lie de la terre disparaît de l'avenir politique de Pétain et de la France. Donc le résultat, c'est qu'on a affaire à des intellectuels qui subissent, qui s'accommodent de ce pouvoir ou qui saluent Pétain comme une sorte de sauveur. Et du côté de l'écho que fait l'appel du 18 juin, c'est un écho des plus restreints. Quelques citoyens écoutent cet appel. Certains bretons ou marins vont partir sur Londres retrouver De Gaulle. Mais là, il n'y a pas véritablement de mobilisation suite à l'appel du 18 juin. Donc, c'est la première étape. Vous avez vu situation militaire, situation politique, le régime de Vichy qui se met en place. Voilà les faits et constater que, bien sûr, le camp intellectuel est pour le moins absent dans une capacité à résister à ce système qui se met en place. Donc, dans une deuxième étape, il faut alors parler de l'occupation allemande et la présence du régime de Vichy face au camp intellectuel. Que font les Allemands en premier lieu? Les autorités allemandes, eh bien, Hitler lui-même est tout à fait satisfait. La France va tomber dans une sorte de dégénérescence et laissons-la dans sa situation de désordre, d'incompétence. C'est tout à fait satisfaisant. Goebbels, pour sa part, lui veut briser la prédominance culturelle française à l'échelon de l'Europe et va donc encourager la collaboration intellectuelle pour mieux infiltrer la société française et le camp intellectuel, pour mieux valoriser la culture allemande, pour mieux impressionner et manipuler l'intelligentsia. Goebbels est tout à fait habile, c'est pas un Allemand lourd, inintelligent, il y a tout un travail de finesse de Goebbels à ce nouveau. Et Abetz, aussi ambassadeur, dit qu'il faut encourager les divisions internes pour mieux contrôler, bien sûr, ce territoire. Donc, on met en place du côté allemand plusieurs institutions, la Propaganda Abteilung, 1200 soldats et fonctionnaires allemands, qui contrôlent tous les médias français. Son chef, c'est Heinz Schmidt, donc avec une propagande systématique et une censure très efficace. Et la section de la Propaganda Abteilung, c'est la Propaganda Staffel, section de la propagande, avec la radio, la presse écrite, le cinéma, le théâtre, les beaux-arts, les musicals, les cabarets, qui seront contrôlés par l'autorité allemande. Tout ceci est géré par l'ambassadeur allemand Otto Abetz, qui fonde l'Institut allemand, un ancien journaliste, un correspondant à Paris et un grand connaisseur de la France. Il y a aussi Gerhard Heller, qui est lieutenant et qui est aussi francophile. Et vous avez aussi Karl Epting, qui est le directeur de l'Institut allemand. Donc voilà une équipe efficace. Et dans cette équipe efficace, on va aussi lancer une association qui s'appelle Collaboration, et qui, bien sûr, demande un travail et la complicité de plusieurs intellectuels. Et Ferdinand Debrinon et Laval vont, bien sûr, lancer ce groupe collaboration, avec comme directeur Alphonse de Chateaubriand. Et puis, vous avez là ici des Français, des artistes, des intellectuels, écrivains, poètes, qui vont donner plusieurs articles, bien sûr, à cette revue. Et ce groupe collaboration, qui va compter jusqu'à 42 000 membres, bons Français, en 1944. Donc voilà les points, et dans ces institutions-là, on va bien sûr encourager la reprise de la vie artistique. Il faut bien sûr continuer à vivre, il faut qu'en tant qu'intellectuel, artiste, j'ai des contrats, j'ai des publications qui sortent, et donc tout va se passer comme si la vie mondaine pouvait reprendre, à Paris notamment et ailleurs, et du côté du théâtre, Sacha Guitry se distingue par ses petites pièces anodines, la Comédie Française et son directeur Jean Copeau lancent les premières représentations. Et là, c'est bien sûr centré sur le pétinisme, sur la ruralité, sur la tradition, foi dans la patrie, dans la race, dans l'âme française. On va se tourner vers Corneille, vers Shakespeare, vers Mérimée, etc. Belbonnard, qui sera plus tard ministre de l'Éducation, est un fervent acteur de ces mouvements. L'opéra reprend aussi son activité avec Rouchet et Serge Liffard, et bien sûr, on lance beaucoup d'opéras devant un public constitué avant tout de bons officiers allemands, bien nazifiés. À l'opéra comique, c'est la même chose. Dans le registre opérette, le théâtre du Châtelet de Mogador des Bouffes Parisiennes reprend comme si de rien n'était. On évite bien sûr de programmer, de produire des auteurs juifs, bien sûr, cela va sans dire. Du côté du cinéma, réouverture immédiate des cinémas, et comme nous avons beaucoup d'artistes connus, Daniel Darieux, Michel Prels, on va pouvoir lancer de nombreuses productions. Il faut rappeler que Michel Prels est une très jeune fille, très jeune femme, et elle s'intéresse plus à sa vie amoureuse qu'à la réalité politique. Elle l'avouera d'ailleurs très clairement, elle a 22 ans, 23 ans. Objectif, c'est se retrouver du côté de Marseille, retrouver son amant, ou du côté d'Allemagne, elle ira aussi retrouver un autre amant. Bref, tout ceci nous démontre que tout va bien dans le meilleur des mondes en ce qui concerne la vie artistique et la vie cinématographique. Marcel Pagnol, lui, produit et termine La fille du Puisatier avec Fernandel. De l'autre côté, des engagés sur le plan cinématographique comme Jean Renoir, René Clair et Duvivier, eux, vont quitter la France et aller se réfugier aux États-Unis. Gabin, Michel Morgan ou Jean-Pierre Aumont feront de même, et on sait que Gabin, lui, lorsqu'il revient sur Paris, enfin sur la France, s'engage dans l'armée des chars. Puis Jean-Pierre Aumont, en Italie, lui aussi, s'engage comme soldat. Vous voyez, on a une autre dimension de la lecture du terrain historique. Ce qui est plus grave encore, au-delà de la propagande Staffel, c'est bien sûr insister sur le régime de Vichy qui se distingue par une politique antisémite officielle, octobre 1940. Le statut des Juifs est défini bien sûr par le régime de Vichy et bien sûr, décret d'octobre 40, interdiction que tout Juif français puisse occuper des responsabilités publiques, des responsabilités culturelles. On les élimine de l'administration, on les élimine des directions de théâtre, d'opéra, etc. On les élimine aussi de l'armée, de la magistrature, de l'enseignement, cela va sans dire. On sanctionne aussi la franc-maçonnerie aussi. Alors, cette sanction de ce décret d'octobre 40 va se traduire dans les lycées, dans les universités, d'une manière très lourde, et d'autant plus que du côté de Allemand, on s'applique à expulser 18 000 juifs français d'Alsace-Lorraine. Comme l'Alsace-Lorraine est nazifiée, hors de question d'admettre que des juifs français de Strasbourg ou de Mulhouse puissent avoir une reconnaissance civique et politique. Vichy poursuit dans cette sorte de politique cynique. Le mot juif est tapé sur la carte d'identité de chaque Français de religion juive. C'est déjà quelque chose de terrible. On va aussi révoquer 7000 naturalisations juives depuis 1927. On annule les naturalisations de juifs algériens qui depuis 1870. On abroge la loi de 1939 sur la haine raciale. Donc si on abroge cette loi, cela permet d'affirmer une attitude foncièrement racialiste. On encourage les campagnes antisémites par cette abrogation de la loi 39. Donc la presse collaborationniste s'en donne à cœur joie, vous la connaissez, Paris Soir, Je suis partout, Candide, Gringoire, La Gerbe, là vous allez lire des articles des plus écœurants, repoussants au niveau d'un antisémitisme le plus vulgaire et le plus obsessionnel qui soit. Deuxième étape, c'est que les Juifs vont être l'objet de spoliation de la part des nazis, mais avec l'aval du régime de Vichy. Le pillage des œuvres juives se fait systématiquement, avec bien sûr Hitler, Göring, que vous connaissez bien, et avec l'appui de Goebbels, on va confisquer et piller les œuvres de nos musées. Le premier train rempli d'œuvres françaises, c'est février 1940. On verra après, bien sûr, que les biens des Juifs qui seront arrêtés puis déportés seront, bien sûr, récupérés par des bons petits Français avec la bénédiction du régime de Vichy et la spoliation est générale. À chaque fois que des Juifs sont déportés, tout de suite, on se précipite dans leur appartement et on confisque d'une manière tout à fait illégale les biens de ces Français de religion juive. Donc voilà une situation terrible qui se construit sous l'autorité de Vichy et l'autorité allemande. Et puis les Allemands vont perfectionner encore leur politique vis-à-vis du camp des intellectuels, c'est mettre sur pied une liste d'ouvrages interdits, c'est la liste Bernhardt en août 40, et puis surtout la liste Otto, donc, qui conduit à sanctionner des ouvrages et interdire bien sûr de nombreux ouvrages de publication. Alors, dans ce travail de liste qui fixe une liste noire d'ouvrages qui doivent disparaître de la vie politique française, il faut bien sûr souligner que les Allemands vont se soucier, pour les maisons d'édition, d'exiger que les maisons d'édition soient sous contrôle allemand ou soient arianisées, parce qu'on a certaines maisons d'édition qui appartiennent à des éditeurs français des religions juives, et là, bien sûr, on sera tout à fait appliqué à sanctionner et d'éliminer ces maisons d'édition, soit d'origine juive, soit des maisons d'édition qui pourraient défendre des thèses de résistance ou des thèses pacifiques. Et donc Gallimard va négocier avec Abetz, et permettre la republication de la NRF. De son côté, Claudel, lui, il adresse un ode à Pétain. Il est satisfait de voir que Pétain fait un très bon travail, satisfait de voir que la Troisième République disparaît, il le dit, satisfait de voir aussi le Parti radical disparu ou disparaître ou être sanctionné. Donc c'est anti-catholique, dit-il, et bien sûr satisfait que les francs-maçons soient aussi visés à la fois par Vichy et puis par Hitler. Donc voilà quelques déclarations assez insupportables. Mauriac, de son côté, lui, veut soutenir Pétain. Et l'essentiel pour lui, c'est de pouvoir publier. Et il est en relation avec le lieutenant LR, ce qui lui permet de pouvoir publier comme il l'entend. Henri de Monterland, lui, est aussi satisfait. Vive Pétain. La décadence française est à son point le plus affligeant. Et ses responsables, il faut les nommer. Et donc, Monterland va devenir un support solide du régime de Vichy jusqu'en 44. Le seul résistant qui affirme sa conviction de lutter et de combattre ce pouvoir vichysois ou ce pouvoir nazi, c'est Guéhenno qui, dans son journal des années noires, eh bien, exprime son enthousiasme pour De Gaulle et dénonce bien sûr la republication de la NRF avec l'accord de Gallimard. Donc voilà les faits, et dans cette situation pour le moins sombre concernant la vie intellectuelle, la presse va revivre, comme le théâtre, comme l'opéra, etc., grâce aux subsides allemandes. Et là, le Matin tire à 500 000 exemplaires, le Petit Parisien à 700 000 exemplaires, Paris Soir à 1 million d'exemplaires. Donc, vous voyez, tout ceci avec la bénédiction des Allemands qui, bien sûr, facilitent ces publications. Les journaux fascistes, bien sûr, sont ravis de l'aubaine, et là, on arrive à des exemples tout à fait désolants de journaux fascistes qui appellent à dénoncer les Juifs, à tuer les Juifs, à s'attaquer aux communistes et aux francs-maçons. Donc, Gringoire, je vous l'avais dit, l'appel, le pilori, aujourd'hui, l'œuvre, le cri du peuple, le réveil du peuple, voilà, des journaux fascistes, et Je suis partout, bien sûr, fondés par Brasillard, sont là pour dénoncer les responsables de la défaite, les Blum, les Daladier, les Reynaud, embrassent toutes les thèses nazies racialistes, dénoncer les Juifs, les communistes, enfin bref, on a des articles dans ces journaux fascistes assez effroyables et effrayants. Et tout ceci conduit encore à une inquiétude majeure, puisque Pétain, avec les accords de Montoire, déclare très froidement et très calmement « j'entre dans la voie de la collaboration ». On voit Pétain serrer la main d'Hitler aux accords de Montoire d'octobre 1940. Donc voilà les faits. Et dans cet accord de collaboration, il est entendu que la France et Pétain doivent livrer les anti-nazis qui se sont réfugiés en France aux Allemands, à Hitler et à la Gestapo. Donc, dans ce cadre-là, à part l'appel de Gaulle, à part la déclaration de Guénot, on a peut-être un petit peu de résistance, mais une résistance minoritaire de la part des étudiants qui, le 11 novembre 40, vont défiler dans l'avenue des Champs-Élysées ou se balader avec des Gaules sur l'épaule, vive de Gaulle, donc manière de résister et d'affirmer son attachement aux déclarations de Gaulle qui appellent bien sûr à la lutte. Il faut résister, il faut refuser l'humiliation, voilà les déclarations que lancent ces étudiants. Autre forme de résistance, c'est Verianne Frey, intellectuel américain, vous le savez, qui est à Marseille, il a 32 ans, il a un amour passionné pour les lettres et pour la littérature française, et va tout faire, la littérature européenne, et va tout faire pour, bien sûr, aider tous les réfugiés qui se sont installés du côté de Marseille. Et donc là, il va se soucier, bien sûr, de sauver ces réfugiés allemands, français, qui sont directement menacés par la Gestapo. Et en distribuant bien sûr des passeports et en organisant bien sûr le départ depuis Marseille en bateau vers les États-Unis de ces réfugiés. Donc voilà, il est appuyé par Jules Romain, Thomas Mann, Jacques Maritain aussi, et puis par l'épouse de Roosevelt, Éléonore, qui soutient bien sûr ce grand Verianne Frey. C'est à saluer bien sûr. Et dans cette situation, eh bien, il faut montrer que plusieurs vont pouvoir regagner les États-Unis, mais d'autres, comme Walter Benjamin, se suicidera à Port-Debout. Il est détenu à Gurs, il essaie de fuir et ne peut résister, et va donc se suicider, ce grand intellectuel allemand. Donc voilà quelques faits. Au-delà, eh bien, les André Breton, Victor Serge, André Masson, Benjamin Perret, Jean Harpe, Marc Sens, Marcel Duchamp, Lévi-Strauss, Mehring vont, grâce à Verianne Frey, pouvoir se réfugier aux États-Unis, et d'autres Allemands aussi le pourront. Ce qui est à noter, c'est que, bien sûr, du côté États-Unis, on veille au grain, et un certain consul américain, Fullerton, considère que l'arrivée de ces réfugiés aux États-Unis à New York sont composés de juifs et d'anti-nazis dérangeants, voire dangereux, et donc il faut arrêter cette opération. Et le brave Fullerton dira à Verianne Frey d'arrêter tout, il le privera de tout moyen juridique et matériel. Et on voit aussi un peu la lâcheté de ce Fullerton, qui considère que ce sont des réfugiés, donc une sorte d'individu louche qui pourrait menacer, gangréner le climat culturel américain. Et voilà le résultat de ce brave Fullerton. Il faut quand même saluer le travail de Verianne Frey, qui va sauver jusqu'à 2000 personnes grâce à son action directe à partir de Marseille. Donc voilà les faits. Autre forme de résistance, c'est le Musée de l'Homme en octobre 40, mise en place par Boris Vildé, linguiste d'origine russe, par Paul Rivet aussi, grand ethnographe, par Yvonne Godon, bibliothécaire du Musée du Musée de l'Homme, pardon. Et ces intellectuels, ces ethnographes, ces bibliothécaires, eh bien, se battent, et vont, enfin, se battent d'une manière particulière. On va distribuer des tracts pour essayer d'éveiller la conscience politique des Français. Alors, on distribue des tracts dans les cafés, dans les toilettes, on laisse des tracts qui circulent, enfin, qui sont placés dans ces toilettes ou dans les tables des cafés, puis on se retire vite parce que, bien sûr, on sera immédiatement interceptés. Ces tracts sont le plus souvent rédigés par Jean Cassou, et il faut bien sûr dénoncer cette complicité, cet accommodement, cette soumission des intellectuels et de la France dans le cadre du régime de Vichy au pouvoir nazi. Germaine Dillon, autre débutante ethnographe, eh bien, elle aussi rejoint le Musée de l'Homme. On publie même un journal qui s'appelle Résistance, avec Agnès Humbert qui en est la secrétaire. Mais cette forme de résistance tout à fait mal organisée, peu structurée, sans aucune précaution, bien sûr, tactique militaire. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'en été 41, la Gestapo met la main sur ce réseau et on va assister à 19 arrestations et 7 exécutions capitales, dont Vildé, bien sûr, notre ami Vildé, Levitsky, Yvonne Godon, bien sûr, qui seront fusillés au Mont-Valérien. Mais vous voyez, il y a un début de résistance minoritaire, inorganisée, qui s'exprime et qui commence à s'imposer, enfin, d'une manière honorable par rapport à l'opinion française. Une autre équipe, c'est du côté communiste, c'est Decours, Salmon, Georges Politzer, qui vont fonder deux journaux clandestins, L'Université libre et La pensée libre. Et avec ces militants, Decours, Politzer et Salmon vont mener cette action de résistance, mais seront eux aussi arrêtés et fusillés en 1942. Du côté de Germaine Tillon, elle continue son acte de résistance, tente de faire une action de renseignement, récolter des renseignements pour Londres. Elle aussi sera arrêtée, déportée en août 42 et pourra survivre à cette déportation dans les camps allemands. Brossolette lui-même est agent de liaison dans ce mouvement et il va être arrêté en février 44 et se suicidera le 22 mars. Donc, voyez, face aux structures solides, totalitaires du régime de Vichy et du pouvoir hitlérien, il y a quand même un mouvement de résistance qui se constitue, mais un mouvement minoritaire, hétéroclite, sous-équipé, mal organisé. Mais enfin, c'est le symbole d'une conscience humaine, humaniste, pacifiste, qui se construit, et c'est un exemple, bien sûr, pour l'opinion française et pour l'histoire, cela va sans dire. Donc voilà une situation particulière qui nous laisse espérer peut-être une forme de plus grande prise de conscience de la part du camp intellectuel. Donc voyons dans une troisième étape comment s'organise le régime de Vichy et comment on passe progressivement d'un régime de Vichy tout puissant à un début de résistance organisée et coordonnée par, bien sûr, l'équipe de Londres et par Jean Moulin. On est en 42-44, voilà la situation, que faut-il en dire? Donc, le fascisme français, bien sûr, est solide sur pied. Hein. Vichy est installé à l'Hôtel du Parc. On a jusqu'à 30 000 fonctionnaires. Laval a été renvoyé par Pétain en décembre 40, puis réintroduit dans le gouvernement sous l'autorité allemande en 42. Du côté de l'esprit vichysois, l'école d'Uriage s'est mise en place pour former de nouveaux cadres afin de pouvoir redresser le pays. Et l'école d'Uriage, eh bien, voit son directeur, Dunoyer de Ségonzac, et des enseignants comme Emmanuel Mounier, Henri Beuve-Méry, se distinguer dans cette école d'Uriage. Donc, ce que l'on peut dire à leur propos, c'est que ces intellectuels comme Beuve-Méry ou Emmanuel Mounier, fondateur d'Esprit, n'avaient rien à faire dans cette école d'Uriage. Mais dans cette école d'Uriage, il y a quand même un climat de liberté, de tolérance qui se construit. Et on a ainsi une structure culturelle qui peut être intéressante. Mais bien sûr, les Allemands, voyant que le climat dans cette école d'Uriage est assez libre et voire menaçant, décide sous l'autorité de Laval de fermer cette école d'Uriage en 1942. Donc voilà un premier point. Deuxième point, du côté de la résistance, remarquons que le PCF, au-delà de l'université libre et de la pensée libre, met sur pied une tactique militaire particulière que vous connaissez bien. C'est, après bien sûr, l'opprobre de juin, de septembre 1939, signature du pacte germano-soviétique, notre ami Torres qui se réfugie à Moscou, nos amis communistes qui déclarent que oui, c'est très bien, cette guerre impérialiste ne nous concerne, c'est une guerre impérialiste, cette guerre entre Français et Allemands, elle ne nous concerne pas, donc une démobilisation dès septembre 39 mai 40, à tel point qu'on a même les autorités communistes qui vont négocier pour que réapparaisse l'humanité. Donc vous voyez cette sorte de compromission assez insupportable de la part des communistes. Mais au-delà, bien sûr, suite après l'occupation par les nazis et le plan Barbarossa de juin 1941 de la Russie, bien sûr, les communistes français vont passer tout de suite dans la résistance et reconnaître quand même que c'est avant tout Hitler qu'il faut abattre et non pas défendre des thèses idéologiques pour le moins contestables. Et donc là, en juin 1941... on adopte une politique de résistance assez terrible, c'est, enfin terrible tactiquement, si l'on peut dire, c'est fusiller, abattre, assassiner tout officier qui se promène dans les rues de Paris ou dans le métro. Et on arrive dans les principales métropoles aussi françaises. Donc on tue chaque fois un officier allemand, donc c'est une tactique particulière. Ça commence en août 41 dans Barbès-Rochoir. Du côté de Bordeaux, eh bien, c'est la même chose. Du côté de Nantes aussi, mais le résultat, c'est que la Gestapo et les Allemands prennent aussitôt des otages et les fusillent sans autre forme de procès. Hein. 48 otages fusillés à Bordeaux, à Nantes 95, du côté de Paris au cinéma Rex en septembre 42, eh bien c'est 170 otages qui sont passés par les armes par la Gestapo allemande. Donc est-ce que l'on peut partager cette démarche, oui ou non? C'est un choix tactique et militaire particulier. On prend peu conscience de cette violence qui s'abat, criminelle qui s'abat sur les otages. Jouer sur la vie de personnes innocentes comme action de résistance, c'est à discuter. Et d'ailleurs, De Gaulle récusera ce choix d'action de la part des communistes à Paris dans les principales métropoles. Bien. Au-delà du procès de Rion mis en place par Pétain en février 1942 et qui d'ailleurs tourne en faveur des accusés, puisque Blum comme Daladier, Blum ou Paul Reynaud, Georges Mandel sauront se défendre et démontrer que s'il y a erreur, ce n'est pas de leur fait, etc. Et donc, il n'empêche que ce procès de Rion de février 1942 envoie Blum, Daladier, Gamelin en camp d'internement allemand. Plus sérieusement, le régime de Vichy met sur pied les rafles après le statut des Juifs, comme on l'a vu, et toutes ces mesures tout à fait insupportables d'octobre 1940. Eh bien, on met sur pied maintenant avec le commissariat aux affaires juives, dirigé par Xavier Vallat, et le ministre de la Justice Joseph Barthélémy, on va mettre sur pied des rafles de Juifs, des rafles d'ailleurs de Juifs étrangers, et puis après cela va se généraliser. En mai 41, c'est 3700 Juifs d'origine polonaise qui sont raflés et envoyés dans les camps d'extermination. En août 41, ce sont des Juifs français à Drancy, 1200 qui sont ainsi envoyés vers la mort certaine. En décembre 1941, ce sont aussi des Juifs français au centre de l'école militaire qui sont envoyés à Compiègne. Et puis depuis Compiègne, bien sûr, on connaît l'itinéraire qui les conduit à Auschwitz, vous le savez. Avec, bien sûr, la complicité de la police allemande et de la police française. Laval, lui, remplace Xavier Vallat le commissariat aux affaires juives et met à sa place d'Archide Pellepoix, beaucoup plus fanatique. Bousquet, lui, qui est chef de la police de Vichy, insiste aussi sur la nécessité de collaborer avec la Gestapo. Et donc, dans ces conditions, eh bien, on s'accorde sur le fait qu'il faut déporter 40 000 juifs étrangers, qu'il faut déporter 10 000 juifs dans la zone libre. Bref, et on en arrive au sommet de cette politique des plus insupportables, c'est la rafle du Veldiv de juillet 1942. 12 884 juifs sont déportés, dont 4 051 enfants, à Beaume-la-Rolande, à Pithiviers et à Drancy, et puis de Drancy, direction Auschwitz. Seule protestation, enfin, si l'on peut dire, c'est l'archevêque de Toulouse, Saliège, et l'archevêque de Bordeaux qui vont dire, mais attention, dénoncer, résister à cette politique antisémite, dénoncer ces exactions et ces formes d'arrestation et de déportation insupportables. Et les faits sont là, pourtant, et les déportations vont continuer. Et on sait que le bilan sera terrible, 76 000 juifs déportés, et sur ces 76 000 juifs déportés, seuls 2 000 survivants. Donc, il y a quand même un travail, vous voyez, la mise en alerte de Saliège et d'autres, eh bien, fait que les citoyens français classiques, eh bien, au quotidien, vont aussi cacher ces juifs, ces personnes poursuivies. Et on sait que plusieurs villages, dans les Chambon-sur-Lignon, hein, par exemple, ou dans la région lyonnaise, les instituteurs, institutrices vont cacher ces enfants juifs. Certains même partiront avec eux lorsqu'ils savent qu'ils sont arrêtés, qu'ils ont été dénoncés. Eh bien, ils accompagneront leur enfant dont ils avaient la charge jusqu'au bourreau d'Auschwitz. Donc voilà quelque chose d'intéressant ici à souligner dans cette réalité et cette lutte solidaire, notamment de citoyens que Israël reconnaîtra sous le nom des justes. Hein. Donc voilà, une situation qui est quand même lourde, terrible, sur le plan de la signification politique et historique. Et puis, dans ce régime de Vichy, les intellectuels collaborateurs se distinguent, bien sûr, par leur zèle et leur volonté d'assumer un fascisme des plus violents, des plus agressifs. Et là, bien sûr, on est dans une situation assez écœurante. Et prenons l'exemple du journal Je suis partout, fondé par Brasillard. Brasillard est un militant de l'Action française, un intellectuel. Il est pour le national-socialisme face à la décadence de la Troisième République. Il va se rendre à Nuremberg en 1937 et est fasciné par les rituels nazis, hein, les célèbres parade nocturne. En 1939-40, il est fait prisonnier, 18 mois, et grâce à l'intervention d'Abetz, eh bien, il est libéré et devient un acteur premier du fascisme français le plus médiocre qui soit, puisqu'il réclame la mort de Blum, de Paul Reynaud, de Daladier. Il désigne les juifs comme des cibles à abattre, hein, dans ses éditoriaux. Il est heureux que l'occupation de la zone libre se fasse, hein, dès 1942. Il réclame la mort de tous les résistants. Il veut intensifier les rafles, il faut continuer la lutte, il faut même éliminer les enfants également, dit-il, dans ses éditoriaux de Je suis partout. Donc vous voyez quelque chose de tout à fait incroyable et bien sûr il va se brouiller en août 43 et retrouvera, on se brouille avec l'équipe de Je suis partout et retrouvera la Révolution nationale dirigée par un certain Pierre-Antoine Cousteau, le frère de Cousteau que vous connaissez. Donc Lucien Rebatté, lui, est aussi un critique de théâtre musical et lui aussi lance ses mêmes insultes, ses mêmes invectives ordurières, hein, contre Poland et contre les Juifs, bien sûr. Et là, on en arrive à une sorte de fascisme et d'antisémitisme compulsif, comme certains historiens le caractérisent. Il faut, et il affirme, que la victoire des Allemands doit être pleine et entière, il n'y a pas à discuter. Il faut lutter et abattre la juiverie internationale. Il proteste contre l'Église et contre certains qui désapprouvent les déportations. Bien sûr, il vise à Liège. Et dans son roman qui est tiré à 65 000 exemplaires, Les Décombres, eh bien, il exprime toute cette position politique fasciste et antisémite des plus insupportables. Comédia est une autre vue pro-fasciste, dirigée par René Delange, mais il y a une certaine liberté de ton, une certaine indépendance, qui fait que on voit bien sûr que Delange défend la collaboration franco-allemande, mais dans cette liberté de ton, eh bien, on voit certains intellectuels qui vont collaborer à Comédia, Marcel Arlan, Monterland, Claudel bien sûr, Anouilh, Jean-Louis Barrault, Honegger, Carnet, Pagnol, Colette, Sartre, Desnoy, Poulant vont être des rédacteurs assidus de Comédia, qui est pourtant pour la collaboration totale avec l'Allemagne. Drieux La Rochelle, bon là c'est le modèle classique, hein, d'un jeune intellectuel romancier qui a combattu en 14-18 et qui a visité d'ailleurs Berlin à plusieurs reprises, et Nuremberg, qui a visité aussi le camp de Dachau des 35, qui adhère au PPF de Doriot, qui a écrit son célèbre roman Gilles, un jeune intellectuel décontracté qui vit et fréquente les salons parisiens et qui bien sûr montre toute la décadence selon lui qui s'abat sur la France. Et donc, il est bien sûr pour le régime nazi et pour Vichy, et il signe un accord avec Abetz pour que réapparaisse la NRF, qui est la référence ultime de tous les grands intellectuels, académiciens et autres artistes et poètes connus, bien sûr. Et donc, là, il va essayer de solliciter plusieurs intellectuels. Gallimard, bien sûr, lui est d'accord sur cette réapparition. Pollan coopère, dans ses premiers numéros, bien, on voit André Gide, Éluard, Georges Auric, Paul Valéry, qui travaillent à cette réapparition, reparution, pardon, excusez-moi, de la NRF. Et donc, bien sûr, le premier numéro est ici. Nous interroge, hein, pourquoi Gide, pourquoi Éluard. Bref, c'est bien sûr la garantie d'être reconnu, d'être publié, de pouvoir être aussi salué comme un intellectuel de qualité, bien sûr, même si nous sommes sous le régime de Vichy et sous le régime hitlérien. Dans les autres numéros, ce sera bien sûr là des collaborateurs plus convaincus qui vont intervenir, Chardonne, Alfred Fabrelus, saluant les soldats allemands, la race allemande, etc. Morand, Jouandeau, Chardonne, Monterland, Giraudoux à nouveau, Fernandez, Alphonse de Chateaubriand, Abel Bonnard seront aussi des collaborateurs assidus de la NRF. Refus de Gide, qui s'est réfugié en Tunisie, de Mauriac, de Valéry et de Claudel, ce qui est assez étonnant. Donc voilà les points ici à retenir. Les autres collaborateurs que l'on peut encore souligner, c'est Georges Albertini, Michel Audiard dans l'appel, François-Charles Bauer, qui sous ce pseudonyme s'appelle en vérité François Chalet, que l'on reverra dans les années 50-60 à la télévision, hein, et qui écrit bien sûr, non pas dans la NRF, mais dans les ouvrages collaborationnistes, Je suis partout, La Gerbe, l'appel, etc. André Castelot, dans la Gerbe. Alors, est-ce que c'est l'historien connu? Je n'ai pas vérifié, j'espère que non, mais on peut s'attendre à tout de la part de nos braves intellectuels. Et puis, qu'est-ce que nous avons encore à montrer? C'est de voir au-delà de cette prise de position très claire, hein, de ces intellectuels collaborateurs, la vie culturelle au quotidien. On va collaborer pour survivre. On se saisit de cette opportunité qu'est le régime de Vichy et les subsides allemands pour publier. Et on a Simenon, grand champion des romans policiers, qui lui va travailler, va publier des livres de distraction avec la bénédiction, bien sûr, des Allemands. Marcel Aimé, Le Passe-Muraille, Colette, Le Képi, etc. Les romans historiques et biographiques sont multiples, bien sûr. Guitry, bien sûr, présente une fresque historique de Jeanne d'Arc à Pétain, montrant comment les grands acteurs historiques français ont joué la grandeur de la France. En terminant sur Pétain, c'est pour le moins discutable. Bref, vous le voyez, des acteurs, des écrivains qui se compromettent par opportunisme économique. Dans le cas des institutions intellectuelles, culturelles, la Bibliothèque nationale, elle aussi, fait un travail intéressant avec Julien Kane, mais il est remplacé par Fay, et lui, monarchiste catholique, s'applique bien sûr à renvoyer tous les collaborateurs de religion juive de la Bibliothèque nationale. À l'Académie française, bien sûr, vous retrouvez Pétain, le cardinal Baudrillard, qui va se distinguer encore par son soutien indéfectible à Pétain, Abel Bonnard, Charles Maurras. Bref, vous voyez des braves intellectuels qui ne méritent même pas le titre d'académicien, mais qui sont bien installés à l'Académie française. On a même d'ailleurs le brave Baudrillard qui rejoindra l'association Collaboration et qui bénira la Légion des volontaires français, hein, le brave cardinal Baudrillard, hein, quelque chose d'assez terrible, comment l'Église se compromet totalement avec le régime de collaboration. Donc voilà des faits. Du côté de l'Académie Goncourt, même chose. Aucun membre de l'Académie Goncourt fait de la résistance. La figure dominante, c'est Sacha Guitry. On a René Benjamin, admirateur aussi de Mussolini et de Pétain. On a Jean Alabert, qui est membre du PPF. Bref, et le prix Goncourt, tenez-vous bien, est accordé à Lucien Rebattet dans son ouvrage Les Décombres, là où il crie sa haine des Juifs. Eh bien, ces braves académiciens n'ont que le titre comme action comme présence intellectuelle et rien d'autre. Hein, donc voilà. Et cela se perpétue par des voyages organisés en Allemagne par notre ami Abetz, le lieutenant Heller, et la propagande à Staffel, bien sûr. Le premier voyage a lieu en octobre 41. C'est la crème de la collaboration qui se rend à Berlin, bien sûr. Drieu La Rochelle, Brasillard, Bonnard, Fernandez, Jouandeau, Chardonne. Monterland refuse quand même, Giono aussi, bref, Morand aussi. On rencontre Goebbels à Berlin, on se rend à Weimar et on fonde l'Union européenne des écrivains. Deuxième voyage, c'est Drieu à nouveau, Chardonne, André Terrive, qui sont là aussi des écrivains tout à fait heureux de retrouver, bien sûr, la vie et le berceau de l'Allemagne nazie. Pour Céline, il faut s'intéresser à ce cas. Il a 42 ans, il est connu par son voyage au bout de la nuit, publié en 1942. Il n'accepte jamais l'argent des Allemands, mais il affirme une haine compulsive d'une violence extrême contre les Juifs. Et là, bien sûr, il va se compromettre totalement, saluer bien sûr le lieutenant Heller, multiplier ses visites à Junger. Il lance ses visites aussi et dîner avec Abetz, et bien sûr, et va lancer des publications des plus insupportables. Il participe et vit et participe et visite, bien sûr, l'exposition Le Juif et la France, et multiplie ses écrits qui sont d'une violence et d'une vulgarité obsessionnelle, terrible, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et Les beaux draps. Donc là, une trilogie, les Juifs sont partout, l'Église et ses 12 Juifs se retrouvent, enfin bref, un délire obsessionnel, mais d'une vulgarité, d'une insupportable violence. Et donc, pour lui, la mission de sa vie, c'est abattre les Juifs, c'est l'antisémitisme avant tout. Il quitte, vous le savez, Baden-Baden et va rejoindre le régime de Vichy qui s'est réfugié à Sigmaringen. Et puis, il rentrera en France en 1954. Le problème, vous l'avez vu il y a que 5 mois ou 1 an, je crois, c'est la réédition de ses 3 ouvrages. Et je crois que c'était Gallimard, il me semble, qui était d'accord pour faire réapparaître ces 3 ouvrages. Heureusement, sous la pression d'opinion, ces 3 ouvrages d'une médiocrité absolue n'ont pas été réédités, heureusement. Donc voilà les faits. Et dans le cas de ce mouvement et de cette réalité collaborationniste, voyons que du côté de la production culturelle, on va parler d'une richesse de la production culturelle, d'une vie culturelle des plus impressionnantes. Du côté du théâtre, les nouveaux répertoires se multiplient. Il y a jusqu'à 54 compagnies sur Paris. Et les ouvrages de Claudel, de Giroudou, de Monterland, La Reine Morte, d'Anouilh, Antigone, de Sartre, huis clos, Les Mouches, de Cocteau, eh bien, sont produits tranquillement, avec la bénédiction, bien sûr, de l'Allemagne. Et on a des acteurs bien connus, que vous connaissez, Henri Bord, Pauve Pesco, Edwige Feuillère, des jeunes avec Gérard Philippe, Jean Marais, Louis Jourdan, qui participent de ce renouveau du théâtre français. La compromission est quand même réelle puisque ces pièces sont le fait d'acteurs non juifs et bien sûr on se soucie aussi de mettre l'accent sur les ouvrages allemands, sur la collaboration avec la Comédie française, l'Odéon et Chaillot pour inviter des compagnies allemandes, le théâtre de Schiller de Berlin ou le théâtre national de Munich. Donc voilà des situations pour le moins inquiétantes. Et Monterland, qui est un brave garçon, comme vous le savez, qui est contre Munich, mais qui est pour la suppression de la Troisième République et pour les soldats allemands, véritables chevaliers, dans Solstice de juin, hein, et qui salue parfaitement la collaboration, eh bien, Monterland, lui aussi, produit des pièces comme La Reine Morte. Bon, d'après lui, la raison d'État s'exprime dans cette Reine Morte. Fils de personne, quête de son enfant abandonné, donc volonté, peut-être la souffrance de la mère, serait la souffrance de la France face à l'occupant nazi. Bref, il y a ici des thèmes assez particuliers. Guitry, de son côté, lui, vous le savez, multiplie les pièces faciles à dimension historique. Florence, Louis XI, Vive l'Empereur, succès populaire. Mais en même temps, Guitry va multiplier les soirées mondaines aux côtés du Tout Paris, aux côtés d'Abetz, aux côtés du lieutenant Heller et bien d'autres. Il a produit son ode à Pétain, quelque chose d'assez invraisemblable. Il multiplie, on l'a dit, les frais historiques et multiplie les contacts avec les Allemands, même s'il a le souci de sauver son camarade Tristan Bernard, qui est juif et qui est arrêté par les Allemands. Giraudeau, lui, on l'a vu, ministre de l'Information, qui est entièrement pour Pétain. Son fils, par contre, est pour De Gaulle, vous voyez la rupture. Et en 1943, Giraudeau tente peut-être d'entrer en contact avec Londres, on ne sait pas trop. Ses pièces de théâtre, Sodome et Gomorre, La Folle de Chaillot, eh bien, sont des pièces qui remportent un succès majeur. On le sait, et Giraudeau aura l'opportunité de mourir en janvier 1944, ce qui est quand même quelque chose. Enfin, c'est un peu cynique, un peu de la dérision, mais disons que Giraudeau n'était pas l'honnête intellectuel qu'on attendait, hein, d'une personne résistante. Voilà, qui voulait se battre, bien sûr, pour la cause du progrès, de la dignité humaine. Tout ceci, pour lui, ne représentait rien dans son itinéraire politique et culturel aux côtés du régime de Vichy. Donc voilà ce que l'on peut dire à ce sujet. On a aussi Anouilh et Sartre. Sartre, lui, soucieux de s'inspirer de la mythologie grecque et de publier son ouvrage « Comme les mouches » ou « Huis clos ». Sartre est avant tout soucieux de produire des pièces en faisant abstraction de ce qui se passe sur le terrain historique. Et d'ailleurs, Sartre et Simone de Beauvoir se retrouveront en vacances du côté des Alpes-Maritimes, heureux d'arpenter les pentes des Alpes. Simone de Beauvoir l'explique très bien. Du côté aussi du Massif central, ils passent des journées tout à fait agréables, un couple merveilleux qui s'entend parfaitement en communion avec la nature. Et Simone de Beauvoir l'explique très clairement, ce qui est assez inquiétant. La résistance, pour eux, ne représente pas grand-chose. Et il faudra deux articles publiés dans les Lettres françaises d'appartenance communiste pour que Sartre soit toléré par l'équipe des communistes et de Louis Aragon. Camus, lui, rallie la résistance en 1943, publie bien sûr Caligula, L'étranger, Le malentendu. Tout ceci est intéressant, mais il faut attendre quand même 1943 avant que Camus se déclare un résistant déterminé contre le pouvoir nazi. Saint-Exupéry, lui, a rejoint les États-Unis, puis s'est inscrit dans la flotte aérienne française, et vous le savez, disparaîtra tragiquement en Méditerranée en 1944. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à ajouter? Le théâtre de boulevard, donc, on le connaît, hein, c'est bien sûr comédie populaire, il n'y a aucun risque. Les Armand Salacrou, Guitry, Marcel Achard produisent de nombreuses pièces avec un niveau de réflexion pour le moins limité, mais bref, succès populaire classique, cela va sans dire. Du côté du cinéma, eh bien, c'est l'âge d'or du cinéma, jusqu'à 220 films sont produits. Plus de 40% de fréquentation, une augmentation de plus de 40% au niveau des fréquentations. Donc là, bien sûr, les cinéastes juifs ont été exclus. Et Goebbels, bien sûr, lui qui est passionné de cinéma, va pousser les intellectuels français à travailler avec toujours son organisme, la Propaganda Staffel, et puis le Référat Film, surtout l'institution, les Continental Film, qui permettent de subventionner avec de l'argent, bien sûr, allemand, ces productions. Donc voilà quelques faits intéressants. Alors que Max Ophüls est juif et réfugié en France, puis en Suisse, Renoir, Duvivier, René Clair, eux, vont aux États-Unis, vous le voyez. Erich von Stroheim, le grand acteur de La Grande Illusion, est un anti-nazi convaincu et lui aussi se réfugiera aux États-Unis. Donc les studios Boulogne-Billancourt, Pathé, Cinéma vont connaître une expansion énorme et bien sûr, beaucoup de jeunes talents se révèlent, Suzy Dolaire, Michel Simon, Henri Bord, on l'a dit, Fernandel, Edith Schweyer, Pierre Freinet sont ici les exemples de ce travail de production cinématographique. Donc, qu'est-ce que l'on peut ajouter dans cette production cinématographique? Il ne faut pas oublier les films allemands de propagande insupportable, Juif Sus, Le Péril Juif, l'exposition du Juif au Chaillot. Hein. Et là, bien sûr, est-ce que l'on peut contrebalancer ces terribles productions allemandes antisémites? C'est à nous de réfléchir sur cette question, bien sûr, avec les Clouzot, les Jacques Becker et d'autres, Jean Delannoy, qui travailleront avec la collaboration, bien sûr, des subsides allemandes. Bien, voilà. Ces acteurs et ces cinéastes vont aussi, eux, faire un voyage en Allemagne. Et Viviane Roman, Suzy Doller, Albert Préjean se rendent en Allemagne. Daniel Darieux rejoint son amant en Allemagne, Henri Bord. Donc voilà, dîner officiel. On est reçu en grande pompe à Berlin avec Goebbels. Arletty est elle-même amoureuse, bien sûr, d'un jeune Allemand. Bon, vous connaissez sa réplique, on n'y reviendra pas. Et donc, il y a quand même une forme de résistance qui se met en place du côté de certains cinéastes comme Louis Daquin, Blanchard, Becker, qui mettent sur pied un comité de libération du cinéma français. Et là, on a l'ambition de sanctionner tous ces collaborateurs dans le cadre du cinéma français. Pour la peinture et la musique, eh bien, on retrouve bien sûr les drames du pillage des œuvres d'art. On a quand même la résistance de la responsable du Louvre qui entre en contact avec la résistance et qui va cacher un certain nombre d'œuvres d'art de nos peintres français dans des châteaux des pays de la Loire. Là, c'est à saluer. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est, je vous l'ai dit, la spoliation qui frappe bien sûr les propriétaires de religions juives très riches et qui disposent de collections privées de très haute qualité. C'est aussi un point majeur avec la complicité de la milice ou des bandes de voleurs professionnels qui vont se distinguer en privant ses propriétaires déportés de tous ses biens artistiques les plus réputés. Donc ces peintres, bien sûr, vont s'organiser, mais d'autres dans la résistance, comme Jean Lursa, comme Talitsky, comme la revue La Main à Plume, donc il ne durera que quelques mois, mais qui a l'avantage d'exister, et tenter d'organiser la résistance dans le domaine pictural. Cependant, nous avons encore des braves petits peintres qui vont se rendre à Berlin, Derain, Vlaminck, Van Dongen, Dunoyer de Ségonzac, le sculpteur Henri Bouchard, Paul Belmondo aussi, autre sculpteur, Paul Landowski, directeur des Beaux-Arts, vont bien sûr rencontrer Arnaud Brecker, Albert Speer à Berlin et sont ravis bien sûr d'être reconnus par ces autorités allemandes. Donc voilà les faits, et on sait que dans l'exposition qui a lieu en 42 à l'Orangerie sur Arnaud Brecker, ben vous retrouvez ces sculpteurs, ces peintres qui saluent l'œuvre merveilleuse d'Arnaud Brecker. Le tout Paris s'y retrouve, Guitry, Serge Liffard, Cocteau, un ode à Brecker est rédigé par Cocteau dans Comédia. Bref, voilà quelques points qui nous démontrent que les peintres eux aussi se compromettent, à l'exception de Picasso, de Dufy, de Rouault, de Bonnard, de Matisse, qui eux refusent toute action de soumission à l'égard du pouvoir allemand. Et puis, du côté de la musique, si on va très vite, rappelons bien sûr que les auteurs juifs sont interdits, Mendelssohn, Mahler, Meyerbeer, Hindemith, Alban Berg, Schoenberg, Kurt Weill sont interdits, bien sûr, des salles de concert allemandes, mais aussi salles de concert françaises. On va même publier une exposition de la musique dégénérée, comme on avait publié et organisé une exposition de la peinture dégénérée, en 1937, à Munich. On dresse une liste noire des auteurs et des compositeurs, bien sûr, juifs. Darius Milhaud est obligé de se réfugier aux États-Unis. Paul Dukas meurt entre-temps. Et la vie musicale reprend, bien sûr, une force et une dimension évidente. L'orchestre de l'Opéra de Paris, l'orchestre Padelou, l'orchestre Lamoureux, l'orchestre du Conservatoire, l'orchestre de la radiodiffusion de Vichy, Radio Paris et son orchestre aussi sont des acteurs majeurs du renouveau de la vie musicale. Le conseiller du ministre de l'Éducation nationale, Abel Bonnard, en mai 1942, eh bien, lui aussi, avec Alfred Cortot, qui est un pianiste réputé, eh bien, vont se rendre à nouveau à Berlin en 1942, avec Furt von Gleyre, hein, Furt von Gleyre qui sera un chef d'orchestre de l'Opéra de Berlin et qui ne verra aucun problème à se produire aussi bien à Berlin, à Paris et ailleurs, à Munich, et qui poursuivra sa carrière. Et là, on peut s'inquiéter de ce comportement assez invraisemblable de Furt von Gleyre, même s'il a protégé quelques juifs de son musicien juif de l'Opéra de Berlin, il est resté quand même le valet du pouvoir hitlérien, accueilli, acclamé par Hitler, Goebbels et tant d'autres. On a des documents d'archives suffisamment significatifs. Donc voilà des points quand même préoccupants. Richard Strauss, bien sûr, vous le savez, aussi pro-nazi, ayant salué avec grandeur le pouvoir allemand. Et donc, là encore, le voyage à Berlin ou le voyage à Vienne voit aussi Lucien Rebatet, Honegger, Florent Schmitt, Marcel Delannoy participer et saluer l'œuvre du pouvoir nazi. La résistance qui s'exprime quand même, c'est Maurice Rosenthal, Paul Paré, Rinaldo Hahn, que vous connaissez, un comique. Et puis ces auteurs, avec l'institution qui est la SACEM, vont envoyer de l'argent aux juifs persécutés, aux musiciens qui ne peuvent plus travailler en France. Donc voilà quelques points intéressants. Raymond Dès, lui, va publier un journal qui s'appelle Pantagruel en faveur de Gaulle. Il est déporté et décapité. Maurice Hewitt, lui, est dans le maquis. Il sera arrêté, déporté et meurt à Buchenwald en 1943. Le Requiem de Forêt à Paris est joué en l'honneur de ces grands acteurs, ces grands résistants que sont Raymond Dès et Maurice Hewitt. Donc là aussi, le PCF met sur pied un comité du Front National de la Musique, et là on retrouve quand même Honegger, qui s'était fourvoyé, Poulain, Coric, Maurice Rosenthal, Dutilleux, le jeune Dutilleux, compositeur qui s'affirmera plus tard, Charles Munch, aussi grand directeur, grand chef d'orchestre, et on compte jusqu'à 30 membres en 1944 de ce comité du Front National de Musique. Mais au-delà de publier sa volonté de prendre ses distances par rapport au régime nazi, on est dans une sorte de confortable neutralité, on ne s'engage pas trop. Oui, la musique doit être neutre, il n'est pas question de dénoncer le pouvoir en place. Bref, cela reste assez modeste comme démarche. Donc voilà ce que l'on peut dire, et il faut maintenant terminer par... Oui, aussi le cas de Herbert von Karajan, qui sera chef d'orchestre réputé de l'Opéra de Berlin à partir de 1933. Et ce brave Herbert von Karajan sera un officier affirmant son attachement au nazisme, sera reconnu après 50, 53, 60 comme le grand chef d'orchestre, en oubliant très facilement sa compromission les plus insupportables avec le régime nazi. Donc voilà, on peut discuter assez longuement sur ces questions. Terminons par, bien sûr, l'affirmation d'une résistance active après 44, au cours des années 42, 43 et 44, 45, la fin de Vichy, bien sûr, et la résistance qui se met en place. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Déjà, sur le plan des faits historiques, novembre 42, la zone libre est occupée par le pouvoir nazi. Février 43, mise en place du STO. 650 000 Français vont partir en Allemagne. Et 1 400 000 prisonniers français travaillent aussi dans les usines allemandes, donc là il y a quelque chose de préoccupant ici. Et l'application du STO provoque bien sûr un refus total des jeunes français qui passent très vite dans la clandestinité et vont se réfugier dans les camps et les maquis de résistance, soit dans le Morvan, soit du côté des Alpes ou des Vosges. Et donc on a ce nombre de réfractaires qui ne fait que grossir, et donc on a une résistance ainsi qui se structure assez intelligemment. Et puis le CNR de Jean Moulin se met en place sous l'autorité de Gaulle pour coordonner les différents mouvements de résistance qui se sont construits minoritairement, puis qui grossissent actuellement. Et donc, autre fait majeur, c'est la milice créée en juin 1943 avec Darnan, et composée de 30 000 militaires, et qui vont, bien sûr, avec les poltuviers et autres soldats qui vont faire la chasse aux résistants français, dits qualifiés de terroristes, Et là, bien sûr, le travail est des plus violents. Pensez bien sûr aux résistances du Vercors et comment la milice va massacrer les villageois qui ont soutenu les résistants du Vercors, brûlant leur ferme, assassinant leur épouse, leur enfant, etc. Donc voilà, cette milice est aussi compromise dans la spoliation des biens juifs avec la bande de Bonnie Lafont, qui font fortune avec le marché noir et qui pillent systématiquement les biens juifs. C'est la bande de la rue Lauriston qui est connue, et donc là on a un travail insupportable mené à la fois par la milice et par ces bandes de voyous sous l'autorité de Bonnie Lafont. La Radio Paris avec Philippe Henriot continue sa propagande depuis le début, et Philippe Henriot sera assassiné par les résistants en juin 1944. Donc voilà la situation. La milice va même, vous le savez, assassiner notre ami Georges Mandel. Jean Zé, lui aussi, est assassiné en 1944. Donc les exactions de la milice sont connues. Mais est-ce qu'il y aura un basculement de l'opinion française? Apparemment non, puisque en avril 1944, Pétain se retrouve à Paris et fait un discours devant la mairie de Paris. Et en avril 1944, Pétain est acclamé par 10 000 Parisiens lors de son discours d'avril, alors que le 6 juin 1944, c'est le débarquement allié de Normandie. Donc vous voyez, cette sorte de parallèle est assez significatif. Y a-t-il basculement? On le verra un peu plus tard. Alors la résistance s'organise d'une manière beaucoup plus nette, et nous avons vu notre ami Guénaud, nous avons vu Benjamin Perret, nous avons vu Jules Romain, Saint-Exupéry, André Gide qui est réfugié en Tunisie, Roger Martin Ducard aussi, Malraux qui attend, lui, la lutte armée pour s'engager. Il attendra 44, pas avant, ce qui est assez étonnant, surprenant de sa part. Et de l'autre côté, nous avons l'antenne du Parti communiste français, l'université libre, la pensée libre, et Politzer Salmon, nous l'avons vu des cours avec les fusillés, mais Claude Morgan et d'autres militants reprennent en main les lettres françaises, relancent les lettres françaises, mettent en place le CNE, Comité National des Écrivains, et se retrouvent là, bien sûr, Louis Aragon, Éluard, Pollan, Mauriac, Morgan, qui vont, bien sûr, crier l'insoutenable, dénoncer ce qui se passe en France, et il y a tout un travail de réveil et d'appel à la résistance depuis les années 42-43 de la part des lettres françaises et du CNE. Et puis le CNE, qui se met en place alors, va bien sûr chercher à dénoncer tous les collaborateurs écrivains, dénoncer les écrivains fascistes, préparer la libération et bien sûr sanctionner ces écrivains. Les éditions de Minuit aussi travaillent clandestinement pour publier de nombreux ouvrages, nous le savons, et aussi bien Le silence de la mer, premier livre clandestin, À travers le désastre de Maritain, Chronique interdite de Pollan, enfin, etc. La poésie est aussi marquante, c'est la grande figure de la résistance que vous connaissez, c'est Louis Aragon, c'est Paul Éluard. Crève-cœur et les yeux d'Elsa sont des poèmes qui parlent de cette résistance, de cette volonté de combattre, bien sûr, le pouvoir, et avec les lettres françaises et les étoiles de deux journaux qui circule sous le manteau, on arrive à saluer l'engagement de Louis Aragon à ce niveau. Paul Éluard, bien sûr, avec son célèbre « Liberté, j'écris ton nom », et ses publications « Livre ouvert » et « Fontaine » en 1941-1942, c'est quelque chose, bien sûr, de tout à fait marquant. Et en 1943 est publiée une première anthologie poétique sur l'honneur des poètes. Alors on essaie de répertorier le nombre de poètes résistants à partir de 1943 dans cette anthologie. Jean Cassou aussi est un résistant. Il a écrit 33 sonnets composés au secret. Et ces 33 sonnets seront mis plus tard en musique par Dutilleux et Darius Milhaud. Et Rosenthal aussi. Robert Desnos, le veilleur du pont au change, là aussi qui appelle à se battre, à résister dès 1942. René Char, un modèle de lutte immédiate, hein, dès mai 40, René Char passe dans la clandestinité et la résistance du côté de d'Aix-en-Provence, de la Provence, hein, il va travailler avec le camp des maquisards et ne publiera rien, hein, c'est son devoir, je ne publie rien du moment que le régime de Vichy demeure, et il sortira son ouvrage sur la résistance, Les feuillets d'hypnose, qui est un rassemblement, une anthologie de ses engagements, de ces luttes et de rendre hommage à ses camarades qui meurent sous les balles allemandes du côté de la Provence. Jean Cavaillès aussi, agrégé de mathématiques, lui aussi dès le départ veut s'engager dans la lutte, met sur pied Libération Sud et Libération Nord et sera fusillé en février 44. Hein, le Jean Cavaillès, un modèle aussi d'engagement et de lutte qui est à souligner. Et deux autres intellectuels, Marc Bloch, hein, l'étrange défaite de religion juive, qui s'engage dans les FTP et qui meurt fusillé 6 juin 44, et puis Benjamin Crémieux, qui rejoint Combat de Camus, qui est déporté à Buchenwald et qui meurt en avril 44. Donc voilà des auteurs, des acteurs tout à fait intéressants ici et qui que l'on peut saluer, bien sûr. Voilà ce que l'on peut ici souligner. Alors terminons par la chute de Vichy et l'épuration. Donc là, on sait comment la population réagit après les drames de Tulle, les pendaisons de Tulle en juin 44 ou le drame de Radur-sur-Glane, hein, le 10 juin 44. Eh bien, la fuite des armées d'occupation se poursuit et les drames, bien sûr, s'accumulent aussi bien dans nos régions que dans vos régions. Et du côté des fascistes et du régime de Vichy, on rejoint Sigmaringen, on franchit la frontière à Belfort et on va mettre sur pied une sorte de gouvernement fantôme. Et là se retrouvent les Paul Marion, les Doriot, les Rebattet, les Brassillard, etc., les Darnand, les Brinon, les Déa. À Paris, eh bien, ce qu'il faut encore souligner, c'est qu'il y a encore en août 44 jusqu'à 35 résistants qui sont exécutés. Le dernier train de déportés est mis en marche le 15 août 44, vous le voyez. Et puis, bien sûr, c'est l'insurrection parisienne, août 44, 25 août, reddition d'Abetz et des officiers allemands, avec Raoul Tanguy et De Gaulle. Et puis, à partir de cette chute du régime de Vichy et l'insurrection parisienne, eh bien, c'est l'épuration qui se met en place, une épuration sauvage, jusqu'à 10 000 morts, une épuration légale avec la Cour de justice et le procureur Mornay. Et là, on arrive à des conclusions très solides, 125 000 arrêts d'indignité et de dégradation nationale, 767 peines de prison et jusqu'à 6 760 condamnations à mort, dont 60% par contumace. Donc voilà cette épuration à la fois spontanée et légale, et puis le procès de Pétain, comme vous le savez, qui sera mis en exil à l'Île-Dieu et mourra en 1951. Laval, de son côté, lui, est jugé et fusillé. Il essaie tente de se suicider au cyanure. Il est repris au niveau médical et il est fusillé. Donc voilà, on a aussi le cas de Brassillard, bien sûr. Malgré la protestation de Camus et de Mauriac, De Gaulle décidera de son exécution. Et de l'autre côté, eh bien, on sait que beaucoup de fascistes vont se réfugier en Espagne et mourront de leur belle mort, comme Alfred Bonnard, comme Darquet de Pellepoix, qui sont en Espagne et meurent dans les années 60, sans aucune autre menace qui puisse les frapper. Donc voilà ce que l'on peut dire dans cette situation. Et les éditeurs sont aussi sanctionnés. L'Académie française, l'Académie Goncourt est aussi épurée, bien sûr. Et bref, on arrive à une mise au pas de ces intellectuels par le CNE qui est assez virulente, violente, à tel point qu'on dira que même les intellectuels ont été traités d'une manière beaucoup plus sévère que les magistrats ou les industriels qui étaient de parfaits collaborateurs du régime nazi et du régime de Vichy. Donc, conclusion de cette conférence sur l'engagement des intellectuels, qui se fait d'une manière un peu rapide, mais bon, il y a tellement de matière à développer. Qu'est-ce que l'on peut tirer comme conclusion? Bien sûr, c'est le choc de l'histoire qui surgit ici, et comment les intellectuels réagissent, ben, on le voit d'une manière peu honorable pour la plupart. Et pour d'autres, c'est un fascisme affirmé. Je suis clairement pour le régime de Vichy, pour le régime hitlérien. Il n'y a pas d'autre choix. Et j'accepte et j'assume à la fois la violence et la politique criminelle du nazisme comme la violence et la politique criminelle du régime de Vichy. Hein, les Rebattet, les Brasillard, les Fernand Brinon, Philippe Henriot, etc. Vous connaissez tout cela. Et donc, on a vu aussi l'habileté du gouvernement allemand qui est là pour subventionner, soutenir la vie culturelle française pour mieux diviser et fragiliser la France. Mais c'est tout à fait clair. Et bien sûr, les manifestations lyriques, poétiques et autres, le sculptural, se multiplient sous l'autorité, bien sûr, de la propagande Staffel, et là, les collaborateurs sont multiples, et là, on peut parler à la fois soit d'une conviction fasciste marquée, on le sait pour certaines catégories, d'un opportunisme économique assez écœurant de la part de certains, ouf, je vais être publié, je vais être reconnu, je peux poursuivre et continuer à vivre par la publication et l'édition de mes œuvres, dont un opportunisme pour le moins contestable, un accommodement assez insupportable. Et puis, au-delà, eh bien, il y a l'idée de résistance qui commence, vous l'avez vu, par ces jeunes étudiants en octobre 40, en novembre 40, 11 novembre, un symbole de la résistance, et puis du Musée de l'Homme, bien sûr, et du mouvement communiste avec la pensée libre, université libre, et bien sûr, qui sont très minoritaires et inorganisés. Et puis le basculement, c'est 42, du fait, bien sûr, des événements militaires, occupation de la zone libre, proclamation du STO et mise en place de la milice. Et là, bien sûr, cette résistance est manifeste, elle est organisée, elle est tout en l'honneur de nos grands poètes et écrivains. Et là, bien sûr, le tribut payé sera très lourd, les Max Jacob, les Desnos, les Marc Bloch, Benjamin Crémieux, Jean Cavaillès, Prévost seront fusillés ou termineront leur dernier jour dans les camps d'extermination. Donc au-delà, l'épuration, alors on en a parlé un peu rapidement, excusez-moi, mais l'épuration pose problème, le CNE a été très violent, était justifié, oui et non, doit-on prôner la réconciliation nationale et effacer toutes les compromissions, voire les actes criminels de certains intellectuels, c'est à discuter, Louis Aragon, Paul Éluard et d'autres, Claude Morgan ont été très virulents en disant il n'est pas question de pactiser avec ces intellectuels qui se sont compromis avec le nazisme ou avec le régime de Vichy. Alors certains diront oui, mais nous avons été manipulés par ce lieutenant LR machiavélique individu, c'est pas possible, vous pouvez pas résister et donc vous devez vous montrer à notre égard plus tolérant et plus conciliant. Alors, bien sûr, la question reste très actuelle, puisque cette réalité de compromission, d'opportunisme ou d'engagement de foncier à l'égard du nazisme et de Vichy, eh bien, ressurgit, on le sait, et depuis au moins 30 ans, on a eu le scandale Paul Touvier, on a eu le scandale de notre ami à Bordeaux, préfet de police, etc., Papon, voilà, on a eu notre ami François Mitterrand qui était décoré de la Francisque et qui organisait des repas avec Bousquet, chef de la police de Vichy. Donc vous voyez, quelque chose d'assez inquiétant. Et puis, plus inquiétant encore, ce passé ressurgit par l'action de certains intellectuels et notre grand ami Klarsfeld, les époux Klarsfeld, ont fait un travail de chasse aux nazis, aux criminels nazis et ont démontré comment la complicité criminelle de ces bourreaux qui ont été ces officiers nazis était à dénoncer et il fallait les sanctionner et les juger. Et là, nous, on a eu beaucoup de mal à juger l'affaire Touvier et autres miliciens. On a quand même organisé, mais que dans les années 80-90, le procès de Klaus Barbie. Voilà, donc, vous voyez, on ne peut pas se taire sur ces compromissions et cette complicité. La leçon de l'histoire est ici majeur et réapparaît, il y a une sorte de répétition de l'histoire qui est manifeste, on ne peut pas cacher comme l'a fait d'une certaine manière De Gaulle en disant oui, eh bien, réconcilions les Français, reconstruisons la France et arrêtons ces débats inutiles quand on sait même que Pompidou voulait taire l'affaire Touvier ou l'affaire Papon, c'est assez invraisemblable. On sait que certains hommes politiques vont honorer la tombe de Pétain et vous avez vu notre ami Macron, aucune conscience historique, aucune connaissance politique majeure, sauf une connaissance niveau livret, livre de troisième d'histoire-géographie, hein, Pétain, grand homme, etc., formidable individu, haute personnalité qu'il faut réhabiliter. Non, soyons sérieux hein, et rigoureux sur cette réalité terrible qu'a été le régime de Pétain. Donc, l'actualité ressurgit, et le cas de Céline avec sa réédition Bagatelle pour un massacre pose un énorme problème. Heureusement, les maisons d'édition ont trouvé la réalité même d'un choix positif. Le renouveau culturel, malgré ses compromissions et ce silence ou cet opportunisme, eh bien, va marquer bien sûr l'intelligentsia française et Gide recevra le prix Nobel, Mauriac, Sartre, qui refusera d'ailleurs, Camus aussi. Et donc, Paris restera avec New York la capitale de la culture et de la réflexion et de l'effervescence artistique et culturelle. Et puis, pour terminer, eh bien, ce problème de l'engagement des intellectuels, après 1945, c'est la naissance de la guerre froide, et là, à nouveau, il faut faire un choix, choisir son camp, être dans le camp du totalitarisme soviétique ou être dans le camp de l'ultralibéralisme américain, voilà un problème de choix, et on sait que Sartre, par exemple, fera le mauvais choix, puisque lui, il dressera des couronnes à Staline, et c'est seulement en 1956 qu'il va quand même comprendre qu'il a fait fausse route et qu'il regrettera, bien sûr, son engagement comme compagnon du Parti communiste français. Donc vous voyez que la guerre froide aussi, après 1947 jusqu'aux années 60, voire même 89-91, effondrement du camp soviétique, eh bien, pose le problème, une fois de plus, de l'engagement des intellectuels par rapport au terrain historique. Et cet engagement des intellectuels est quelquefois courageux, lucide ou quelquefois totalement erroné, totalement irresponsable. Oui, mais on est des hommes avec des qualités intellectuelles majeures et donc on se met au service de la poésie, de l'esprit, de la dignité citoyenne ou alors on est un petit écrivaillon qui ne voit pas plus loin que le bout de ses chaussures. Bref, voilà, nous avons terminé un petit peu rapidement, mais voilà une question majeure qui se pose et qui reste encore à travailler avec les intellectuels face au système soviétique et au système américain. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.
Bien, eh bien, merci Monsieur Queneau. Vu l'ampleur et la richesse de vos références, là, on a. Il faut vraiment qu'on fasse la biblio sur le site, hein, parce que pour réviser. Hein, voilà. Donc, y a-t-il des questions ou des interventions sur l'intervention, enfin sur la conférence de M. Queneau. Vous êtes abasourdi. Ouais.
Hein? Merci.
Non, mais dans le bon sens du terme.
Oui, j'ai compris, bien sûr. Oui. Je le prends comme ça, bien évidemment.
Oui, ah, oui, dans le bon sens du terme.
C'est évident. Voilà. Bien.
Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis,
c'est moi qui vous remercie.
Je pense qu'on vous invitera à nouveau. Oui. Vous avez beaucoup de ressources. On a lu vos petits papiers, donc oui, on en rediscutera.
Voilà. D'accord. Merci. Bien, bonjour, merci.